Donc le thème d'aujourd'hui, un thème peut-être que vous seriez plus à même de répondre, peut-être plus d'expérience que moi, puisque c'est grandir dans l'amour, dans le couple. Alors ici, on n'a pas vraiment un couple, on est en communauté, enfin il y a quelques éléments communs. Mais voilà, comment grandir dans l'amour? Alors c'est un thème énorme, et donc voilà, donc j'ai pas la prétention du tout de tout aborder, parce que bon, déjà, l'amour, c'est quelque chose qui est infini, on n'a jamais fini d'y grandir, et c'est pas deux heures de conférence qui changeront l'affaire. Voilà, donc surtout, profitez de cette journée vraiment pour prendre du temps aussi pour vous, du temps de silence, du temps pour Dieu, c'est aussi ça, grandir dans l'amour, c'est surtout ça d'ailleurs. Voilà, pour puiser au cœur même de votre intériorité, et c'est un peu là où se trouve le grand secret de l'amour, où Dieu est présent. On va essayer de voir ça, mais c'est là l'essentiel en fait. Après, quelques propos que je pourrais dire, voilà, on verra. Ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est vrai que la question du mariage ou du couple, aujourd'hui ou comme toujours, hein, ça a toujours été un moment de crise. Alors crise, il faut voir le sens positif du mot crise, avant d'aborder le sens négatif. Quelqu'un disait qu'un jour, en fait, l'Église est tout le temps en crise. Parce que crise, en fait, ça veut dire jugement. C'est un choix à faire. Et donc, on se rend bien compte, dans la vie de couple, il y a toujours des choix à faire. Entre eux, il y a toujours des choix qui se présentent à nous, des petits choix, des moyens et des grands choix. Et d'une certaine manière, on est tout le temps en crise. Alors, la manière d'éduquer un enfant, la manière de se comporter avec son mari, il y a toujours des moments de crise. Donc la crise, entre guillemets, c'est tout le temps. Alors aujourd'hui, particulièrement parce que, entre guillemets, la société s'en mêle. La société engendre une nouvelle crise, ce que Jean-Paul II appelait la structure de péché. C'est-à-dire qu'en fait, la société elle-même a une structure qui fait que le mariage ou le couple rentre dans une crise, est en crise. Alors bon, les événements derniers, effectivement, nous montrent que le mariage peu à peu perd de sa substance. Alors, c'est pas nouveau, hein, ça date depuis quelques dizaines d'années. Au fur et à mesure, en fait, on voit bien que la substance du mariage s'effrite au fur et à mesure. Alors au début, on a perdu le pilier l'indissolubilité, pardon. Voilà, en ouvrant grande large le porte au divorce. Bon, ça a toujours existé, hein, c'est pas nouveau, mais voilà, là on l'a totalement ouverte. Donc de fait, le mariage au niveau de la société, au niveau des gens, perd sa consistance. Ensuite, quand on voit les pubs à Paris aujourd'hui, tromper votre mari, toutes les techniques pour le faire. Bon, ça fait un peu peur, j'étais à Paris hier, bon c'est sympa. Le pilier de la fidélité qui tombe. Et puis, avec la question du mariage pour tous, c'est le pilier de la fécondité, qui n'existe plus, puisqu'il ne fait plus partie du mariage. En tout cas, du mot mariage tel que tout le monde l'entend. Et il ne faut pas croire que nous, parce qu'on est chrétiens on n'échappe pas du tout à tout ça. Enfin, on est marqué par ce contexte de société. Si on est fils de Dieu, on est aussi fils de notre temps, et il faut en prendre conscience. Voilà, donc il y a une crise en plus, une crise sociétale, en plus de la crise ordinaire du mariage. La crise des différents types d'amour qui doivent se donner. Donc effectivement, il y a une première prise de conscience à ce niveau-là qui fait que, effectivement, c'est important de pouvoir s'arrêter à un moment donné pour faire un peu l'état des lieux. Où j'en suis, moi, personnellement, dans ma relation, dans mon amour auprès de mon mari. Ça veut dire quoi pour moi, concrètement, aimer? Où j'en suis, Ça, c'est des questions, effectivement, qui doivent nous habiter. Et pour ça, effectivement, il faut prendre du temps. C'est pas quand on est avec bébé qu'on a le temps de s'occuper de ça. Voilà, il faut être pleinement à ce qu'on fait, donc prendre du temps pour ça. Alors le mariage, c'est pas simplement non plus un permis de s'aimer, un permis de coucher, un permis de construire, mais aussi essentiellement, avant tout, c'est une alliance avec Dieu. Enfin, dans le mariage tel que on le conçoit chrétiennement, c'est vraiment construire une alliance. Une alliance personnelle, voilà, et une alliance en couple. Avec Dieu. Et ça, c'est non-stop. C'est non-stop, voilà. On n'a jamais fini de grandir, et je dirais, là, en ce sens, notre vie communautaire rejoint votre vie communautaire, entre guillemets. Parce que, voilà, il y a des éléments qui sont très communs. Comment rencontrer Dieu dans le quotidien? Comment prendre du temps pour la prière? Alors, chacun a un niveau différent. Et ça, c'est très commun. Et donc, effectivement, une des questions qui peuvent se poser, c'est quelle est la place de Dieu dans ma vie conjugale? Comment je situe Dieu? Est-ce que, on y reviendra, mais est-ce que c'est compartimenté? Est-ce que c'est intégré? Est-ce que c'est mis de côté? Enfin, voilà. Comment j'intègre, quelle est la place de Dieu? Ça fait partie aussi d'une grande question par rapport à la question de l'amour, parce que celui qui est par excellence, la source de l'amour, c'est bien Dieu. Et si on veut grandir dans l'amour, il est bien clair qu'il faut puiser à la source. Et puis, une troisième aspect du mariage, dans la conception qu'on peut en avoir, en tout cas aujourd'hui, de manière générale, c'est qu'on a, et encore une fois, on est marqué par ça, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, et puis vous, mesdames, encore plus peut-être, c'est le côté très sentimental. Sentimental ou sentiment. De l'amour, et le côté un peu romantique de l'amour, mais alors qu'en fait, effectivement, comme dirait Bismarck à sa femme, je ne vous épouse pas parce que je vous aime, mais pour vous aimer. Donc effectivement, intégrer cet aspect volontaire de l'amour. Bon, c'est des choses qu'on sait, qu'il faut se redire, parce que c'est là-dessus qu'on construit, en fin de compte. L'aspect sentimental, le gousi-gousi du départ, c'est un point de départ, mais il a besoin d'être développé, d'être construit. Et je dirais, quand on se marie, quand on débute une vie de couple, c'est là où tout commence. Tout est à faire. Voilà, on s'engage à construire à deux. Et de fait, il n'est jamais trop tôt pour commencer. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et donc, effectivement, il y a différents degrés dans cet amour. L'humain, je dirais, mais qui, de cette certaine manière, a une certaine pérennité, parce qu'il ne s'appuie que sur nos propres forces. Et voilà, au bout de quelques années, ça s'effrite. Où on s'appuie sur notre sentiment, donc ça s'effrite. Où on s'appuie que sur notre générosité, et ça s'effrite. Je me souviens, c'est un autre aspect, mais quand j'étais parti pour aider des personnes dans les bidonvilles, avec toute ma générosité, et au bout d'un mois, je voulais taper tous les enfants. Voilà, on s'est dit, notre générosité, elle est un peu limitée, il faut peut-être aller puiser ailleurs. Et effectivement, c'est ce qu'on appelle la vertu de charité. C'est une vertu de charité, effectivement, qu'il faut puiser ailleurs. C'est plus de notre ressort, mais c'est vraiment d'une autre origine. Et donc la vertu de charité, elle a deux aspects. Elle a un premier aspect qui est la répétition d'actes. Voilà, on grandit en répétant les actes. Et on se perfectionne. Et deuxième aspect, la vertu théologale, donc, c'est qu'elle a une origine divine. Donc on ne peut pas construire son couple sans puiser en Dieu. Je dirais pour peser les choses, de manière implicite ou explicite. Parce qu'effectivement, il y a des couples, s'ils sans le savoir, puisent en Dieu, mais ils le savent pas. Ça arrive. Voilà, c'est ce que saint Paul appelle, voilà, on suit sa conscience, on suit son cœur, voilà, et Dieu est présent dans ces actes-là. Donc, voilà, donc de manière, voilà, on peut puiser en Dieu de manière implicite ou explicite. Ça, c'est important de le rappeler parce qu'effectivement, il y a des couples qui durent et qui grandissent dans l'amour. On sent que Dieu n'est pas présent de manière explicite, mais voilà, de manière implicite. Ça, c'est important de se le redire, même pour nous d'ailleurs. Mais c'est vrai que quand on est chrétien, on a c'est un devoir, c'est d'avoir cette manière explicite aussi dans notre vie. Parce que voilà, c'est tout notre devoir de louange aussi, notre devoir de témoignage qui a cet aspect d'explicitation, que ce soit personnel ou en couple. Donc ça, c'est aussi un élément important dans le couple aussi, on verra, hein, dans la manière de faire rayonner cet amour. Donc effectivement, dès que j'aime vraiment, Dieu est présent. Dieu est présent dans ce qu'il est en soi. Hein. J'ai abordé toujours ce thème-là, mais enfin, si on aborde l'amour, on ne peut pas le faire. Enfin, on ne peut pas ne pas en parler. C'est la Trinité, je serai très rapide. Hein. Mais il faut bien prendre conscience que dans son être même, Dieu, il est relation, il est don. Tout ce qu'il est, c'est se donner. Totalement. Et se recevoir totalement. Parce qu'on verra que l'amour, il y a deux aspects. Hein. C'est son être même. Et voilà. Et donc, on est appelé, en tant que chrétien, en tant que dans un couple, aimer son conjoint autant que Dieu l'aime, et de l'aimer de l'amour même de Dieu. Pas une mince affaire, je dirais c'est impossible à l'homme, mais rien n'est impossible à Dieu. On sent bien que cette exigence, voilà, ça nous dépasse, et c'est plutôt bon que ça nous dépasse. C'est plutôt positif. Quand quelque chose nous dépasse, c'est lorsque je suis faible que je suis fort, nous dit saint Paul. C'est très important de se le rappeler, de se le redire, de ne pas avoir peur de se mettre face à quelque chose d'infini, entre guillemets, quelque chose qui est impossible, parce qu'au moins on a ce réflexe, je dirais, de compter, non pas sur nos propres forces, mais sur celles de Dieu, et là on commence vraiment à grandir dans la foi, à grandir dans l'amour. Mon mari est impossible à aimer, il devient insupportable, c'est très bien, parfait, on va peut-être commencer à aimer, pour de vrai. Voilà. Parce qu'on va puiser ailleurs, on va chercher notre ressource ailleurs. Et il y a toujours moyen de grandir dans cet acte. Alors après, il y a aussi des actes prudentiels à avoir, ça, c'est évident. Mais déjà dans l'essence même, on peut toujours grandir. Et grandir, c'est-à-dire puiser. Et donc, c'est effectivement, à un moment donné, c'est laisser Dieu aimer en nous. Ça va être le grand acte. Et ça va être toute notre vie spirituelle va consister en cela. Donc quand vous êtes engagé dans le couple, il y a l'aspect d'engagement matrimonial. Et effectivement, le prêtre ne vous a pas demandé si vous aimiez votre mari ou votre femme. Enfin, je vais plutôt vous dire votre mari, parce qu'il n'y a que des femmes en face de moi. Il ne vous a pas demandé est-ce que vous vous aimez. Enfin, réponds pas trop à cette question. Mais veux-tu ? Ou je veux. Effectivement, ça relève d'un choix, d'une liberté. Donc voilà, commencer dans l'amour, c'est un choix et une liberté. Je dirais un choix premier, qui, voilà, on se met vraiment face à quelqu'un. Est-ce que cette personne-là est capable de me rendre heureuse ? Est-ce que je veux construire avec elle ? Est-ce que, voilà, c'est toutes les questions du discernement qui se fait avant. Et effectivement, je sens que j'ai tous les moyens pour m'engager auprès d'elle. Et il y a le grand choix. Voilà, le grand choix qui engage toute une vie. Et alors ce grand choix, on l'a fait il y a quelques années. Mais il doit être porté aussi après par tous les petits choix du quotidien, de tous les jours. Et quand on va aborder la question de la fidélité, effectivement, Je deviens infidèle dès lors où je ne pose plus ce petit choix du quotidien. C'est très intéressant. Enfin, c'est pas simplement aller voir ailleurs, mais c'est déjà le fait de ne plus poser, de rechoisir, de ne pas rechoisir son mari. D'une certaine manière, c'est une forme d'infidélité déjà. Parce que je me suis engagé à le vouloir. Alors, quand on s'engage à vouloir, on ne mesure pas toutes les conséquences. Mais par contre, on peut mesurer le fait que tous les matins, je peux le revouloir. Je peux faire ce choix tous les jours. Et c'est ça qu'on appelle la vertu de charité. Hein. C'est que ça va, ce choix, il va engendrer en nous une perfection de plus en plus grande. C'est comme quand on fait des maths en sixième. Voilà, il faut travailler pour apprendre les maths de sixième. Puis quand on arrive en terminale, on se rend compte que les maths de sixième, c'était facile. Alors au début, c'est facile d'aimer son mari parce que tout va bien. Enfin, je dirais, ça dépend des couples. Hein, mais... Et puis au bout des années, tout le monde change. Les gens deviennent acariâtres. La vie nous poursuit. Mais comme on a fait ce choix quotidien, l'amour s'est fortifié aussi. Hein, il y a eu ces... Et par contre, si on n'a pas fait ces choix du quotidien, on est vite dépassé, en fait. Voilà. Et comme je disais, c'est jamais trop tard non plus. On peut refaire ce choix. D'où l'importance aussi, de temps en temps, en couple, hein, de refaire un peu ce symbole cet anniversaire de mariage, se redire notre amour, se redire nos promesses, se redire l'engagement matrimonial, enfin voilà, se le redire, soit dans une célébration, et puis voilà, reprendre conscience de ce choix à deux. C'est une manière de jamais trop tard, et souvent très émouvant d'ailleurs ces moments-là, au cours d'une retraite, c'est très émouvant parce que on reprend conscience de quelque chose, petit à petit, c'est plus ou moins effrité, ou on ne prenait pas forcément toute la mesure, et voilà, et on refait ce choix. Alors l'engagement aussi, aujourd'hui encore, enfin, quand je parlais de notre époque, on est fils de notre époque, l'engagement, où souvent on a un peu il y a un petit peu ce petit démon, hein, qui nous dit « Ouais, mais t'engager avec cette personne-là, ta liberté, elle est quand même un petit peu entamée. Voilà. » On a l'impression que ça s'oppose un peu à notre liberté du quotidien, de refaire ses choix d'une personne, de tout le temps la même, enfin voilà, et avec cette personne-là, enfin voilà. C'est quand même présent, on est tenté par ça en tout cas. Mais il faut prendre conscience aussi que la vraie liberté, c'est de pouvoir être capable de choisir le meilleur pour soi et le meilleur pour l'autre. Le meilleur, c'est celui, en fait, qui va me rendre capable d'aimer plus. Parce qu'au final, il n'y a que l'amour qui nous rend vraiment, vraiment heureux. Quand on aime vraiment, ça comble nos cœurs. Que ce soit dans le mariage ou dans une vie, je dirais, consacrée, à partir du moment où on apprend à aimer au quotidien, tout ce qui nous vient de Dieu, enfin tout ce qui nous vient des circonstances, je veux dire ça comme ça, si on apprend à l'accepter, à l'épouser, cette réalité, il y a un certain bonheur, que ce soit dans la peine ou dans la joie. Mais voilà, cet amour nous rend heureux. Et puis se rendre compte que cette liberté, en fait, une liberté tout seul, c'est risqué. Parce que y a notre égoïsme, il y a nos passions, il y a tas de trucs qui viennent se mêler à ça et qui fait que une liberté qui au départ est une liberté, au final se transforme en esclavage, on devient esclave de différentes choses qui ne sont pas parfaitement dignes, enfin, parfaitement en adéquation avec nous-mêmes. Et puis se rendre compte aussi que deux volontés, deux libertés ensemble, ça vaut mieux qu'une. Trois libertés, c'est encore mieux que deux. Quand on dit se marier à trois avec le bon Dieu, c'est encore une liberté. Sachant que Dieu, je vais le présenter comme ça, le bon Dieu, en tant que liberté suprême, on pourrait imaginer que Dieu, c'est la somme de toutes les libertés. et plus encore. On prend toute nos libertés personnelles, du monde entier, de tous les âges, et Dieu, c'est la somme de toutes ces libertés, tout ce qu'il y a de meilleur possible de chacun, mais encore plus. Donc si on met Dieu dans notre vie, je dirais, ça nous permet d'avoir encore un choix plus large de possibilités dans notre couple. Et on va voir dans le détail après, à tous les niveaux, que ce soit au niveau sentimental, au niveau du corps, au niveau de la manière de vivre la légèreté de la tendresse, au niveau des idées, de cadeaux, enfin, voilà, il y a tout d'un coup, il y a plein de... on s'ouvre toute une ouverture d'esprit, enfin, de possibilités, qui font que notre couple, entre guillemets, il y a de la fantaisie, il y a un peu de folie, il y a des choses nouvelles qui peuvent se donner à vivre, et on ne se sclérose pas, on n'a pas une pure vision de notre mari, mais on s'ouvre, et Dieu nous permet ça en fait. L'Esprit Saint nous permet cette ouverture à l'autre, à des choses nouvelles qu'on ne voyait pas, à des capacités en nous qu'on ne voyait pas, et il permet ça. Et donc c'est ça, la vraie liberté, c'est cette capacité au meilleur, toujours au plus, à développer des éléments que je ne voyais pas. D'où encore l'importance d'intégrer le bon Dieu dans notre vie. Et puis dans le choix qu'on a fait de notre mari, dans l'engagement, la question souvent se dit, mais est-ce que c'est Dieu qui a voulu ce mari pour moi? Est-ce que ce n'était pas un autre? La tentation peut se présenter. On peut toujours dire, oui, mais en fait, peut-être que c'était un autre au final. Dieu ne voulait pas forcément celui-là pour moi. La volonté de Dieu, est-ce qu'elle s'est exprimée vraiment à travers lui? Bon, est-ce que je me suis vraiment engagé? Au début, c'était bien. Et puis, est-ce que j'étais vraiment libre? Bon. Voilà. Mais de fait, alors après il y a des conditions effectivement de reconnaissance d'unité de mariage, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ça. Mais si globalement il y a les conditions qui sont réunies, si on se rend compte qu'on était vraiment libre à ce moment-là, oui. On peut dire Dieu a voulu cette personne pour moi. Alors, je corrige tout de suite. C'est pas Dieu qui a voulu absolument cette personne pour moi. Les circonstances de la vie ont fait que c'est cette personne-là qui s'est présentée, que j'ai appris à aimer, que j'ai voulu aimer et que je veux aimer. Mais Dieu me demande, peu importe le choix qui s'est fait, c'est que il me demande de l'aimer elle, et pas une autre. Voilà. Qu'il soit bon ou sévère. Voilà, c'est un peu. C'est-à-dire que un choix qui a été fait, libre, on va dire, il me demande de le rechoisir, qu'il soit bon ou sévère. Nous, dans notre règle de vie, on dit on doit obéir à notre supérieur. Il représente la volonté de Dieu à travers lui, qu'il soit bon ou sévère. Très intéressant. Parce qu'effectivement, on voudrait que notre supérieur soit très gentil, toujours très bon, et puis qui dise oui à tous nos caprices, et qui soit très bon, la manière de faire, qui soit tendre, etc. Non, la reine nous dit bien qu'il soit bon ou sévère. Et je dois apprendre à l'obéissance chez nous, ça veut dire cette loi de l'amour, à travers ce supérieur, qu'il soit bon ou sévère. La volonté de Dieu s'exprime à travers mon supérieur, qu'il soit bon ou sévère. Mais on pourrait dire la même chose de son mari. La volonté de Dieu s'exprime à travers mon mari, qu'il soit bon ou sévère, dans la mesure où ses choix sont légitimes. Je corrige aussi, dans la mesure où ses besoins soient légitimes. Bon, je vais revenir un peu cet après-midi ou tout à l'heure aux besoins de l'autre. Donc effectivement, quand on a fait ce choix de libre, on se reçoit, on reçoit l'autre, et dans ce qu'il est, et dans ce qu'il va devenir, dans ce qu'il est aujourd'hui, parce qu'on ne va pas l'imaginer on peut toujours l'imaginer, mais c'est aujourd'hui. L'amour, c'est quelque chose de très présent. On aime aujourd'hui. Donc, c'est effectivement... on l'aime... au début, on voit que la partie positive, souvent, et puis après, on voit l'aspect défaillant de l'autre. Et puis, s'ajoute à ça l'éducation, s'ajoute à ça ses qualités, ses défauts, ses richesses, ses pauvretés, ses parts d'ombre, d'inconnus, Il y a toute une épaisseur, ces masques, ces protections, enfin voilà. Il y a tas de choses qui effectivement se rajoutent au fur et à mesure. Mais voilà, Dieu me demande d'aimer cette personne-là, et qu'il soit tel qu'il soit. Voilà, donc dans l'engagement aussi, on parle de se donner. Je me donne à toi. Donc je te reçois. Je te reçois tel que tu es, bon ou sévère, et je me donne à toi. Voilà. Donc, vous voyez, donc l'amour, il y a ces deux dimensions. Hein. Il y a de nouveau sous le soleil, hein, mais voilà, on se reçoit, et c'est vrai avec Dieu aussi. Hein. Dieu, dans une dynamique avec le Seigneur, il faut prendre du temps pour recevoir, pour puiser la source. Et puis après, on peut effectivement se donner. Et bien, avec son mari, c'est un peu pareil. Je me reçois, je te reçois de Dieu, comme tu es, pour pouvoir me donner ensuite à toi. Et voilà, et c'est ça aussi apprendre à s'aimer. Cette respiration, cette inspiration et cette expiration. Et je me donne tel que je suis, voilà, unique et défaillant. Voilà, et donc effectivement, quand on dit unique et défaillant, on sent bien derrière qu'il y a un peu ces deux faces de l'amour, l'aspect croix et résurrection, si je veux dire. Enfin, l'aspect de la... ça coûte d'aimer, parfois ça coûte énormément, parfois ça coûte moins. Et puis il y a des moments de résurrection, de joie, de gloire, de grande, grande joie. Et heureusement, voilà. Et puis au final, c'est quand même ça. Hein. Mais voilà, mais c'est pouvoir intégrer les deux. Parce que les deux, en fait, intègrent un aspect de croissance. Je vais prendre une image qui n'est pas très belle. Elle n'est pas belle du tout, mais je suis désolé. Vous êtes accru à l'aspect un peu âpre de l'image. Mais un abcès. Oui, excusez-moi. Voilà. Ça fait mal tant que ça grandit, en fait. Voilà, un petit bouton, enfin, il fait mal tant qu'il grandit. Puis après, une fois qu'il est grandi, il fait plus mal. Ben, c'est un petit peu ça. Il y a un autre cœur, excusez-moi, l'image est plus belle. Hein. Tant qu'il grandit, ça fait un peu mal. Parce que voilà, ça pousse sur les côtés, etc. Donc ça fait un peu mal. Et puis quand il a fini de grandir, alors, on aime avec la capacité de notre cœur. Alors il y a certains saints, je sais pas, Philippe Néri par exemple, physiquement même, sa cage thoracique avait grossi. Voilà, parce que son cœur avait grossi physiquement. Des fois, les saints, ils ont un peu ils somatisent des choses, comme les stigmates, des choses comme ça. Ils somatisent des trucs. Puis il avait son cœur, effectivement, qui avait grossi. Bon. Parce qu'il avait une capacité d'aimer. C'est pas essentiel, hein. Voilà. Ça montrait que, alors, ça devait faire mal, hein, quand même. Parce que, un cœur qui grossit, qui pousse sur les côtes, ça va quand même faire mal. Mais c'est pour montrer l'aspect, cette douleur, c'est pas souffrir pour, on se flagelle. Mais le fait d'aimer même, le fait d'aimer, le fait de grandir dans l'amour, cet aspect de, ça pousse sur les bords, quoi. Ça fait mal. L'aspect de croix, parce qu'on est blessé par le péché déjà, on est défaillant et que ça nous repousse dans nos retranchements, dans des lieux où on est incapable d'aimer, le bon Dieu vient nous chercher, notre mari vient nous chercher là. Voilà, il nous montre nos incapacités d'aimer, à chaque fois qu'il nous agace, on a tout de suite des images. Et voilà, ça nous montre des incapacités qu'on a, mais peu importe, Dieu nous attend là. Et ça fait mal, voilà. Si on veut aimer là, on se rend compte que ça demande un effort. Un effort, et cet aspect de croix, c'est ça. Ce cœur qui grandit, qui fait mal. Voilà, et donc cet aspect de fidélité, justement, de fidélité, hein, la fidélité, c'est un aspect de durée, en fin de compte, dans la fidélité. La fidélité, ça dit la durée. Mais alors, quand on s'engage, si on commence à considérer la durée, ça fait peur. Voilà, donc on ne s'engage plus. D'ailleurs, aujourd'hui, on ne s'engage plus. Parce qu'on se dit, oula, dans 20 ans, est-ce que je serai encore capable? Parce qu'encore une fois, on compte que c'est sa propre force. Donc dans la fidélité, ça fait peur le mot, parce que voilà, il y a cet aspect de durée. Il y a cet aspect aussi qu'on a l'impression, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ça va toucher, ça va, comment dire, limiter ma liberté. Donc voilà, donc c'est toujours compliqué. Mais à l'inverse, pour réfléchir, il faut toujours raisonner par l'absurde, est-ce que l'infidélité nous rend plus libres ? C'est toujours intéressant de se poser la question. Est-ce que le fait d'être infidèle à quelque chose ou à quelqu'un me rend plus libre ? Alors, je prends un exemple. Hein. Je suis complètement infidèle à ma femme. Je vais... Bon, ou à l'inverse, voilà, je suis une femme, je suis infidèle à mon mari. J'ai 4 amants. Est-ce que ça rend plus libre ? Question intéressante. Ça rend la vie très compliquée quand même. Déjà. Parce que, voilà... Ouais, le mensonge, la duplicité, l'emploi du temps quand même très compliqué, hein. Les enfants à gérer, le mari, voilà, le parfum, les odeurs, notre vie devient infernale au final. Hein. Alors pour le petit plaisir, ça devient intenable. Et puis alors, le problème de conscience, et puis au final, notre mari en est quand même très mal à l'aise. Et puis on se donne plus du tout à lui. Et puis au final, on se rend compte que on est en fait malheureux parce que voilà, on n'arrive plus à se donner complètement à quelqu'un. Mais notre cœur, il est fait pour ça. Et quel que soit, bon là, je prends un exemple énorme, mais voilà, l'infidélité, ça rend tout sauf libre et ça nous rend surtout très malheureux. Parce qu'on peut pas être on n'est pas fait pour ça, en fait. Notre cœur n'est pas fait pour ça. Il est fait pour se donner totalement. Et on est infidèle à nous-mêmes, à ce que l'on est, à notre nature. Alors, notre grand débat aujourd'hui, c'est qu'est-ce que le rapport entre la nature et la culture. Très intéressant comme débat. Moi, je parlerais de nulture, voilà, cette alliance des deux. Mais voilà, il ne faut pas négliger l'un ni l'autre, prendre les deux. Voilà, la culture, c'est aussi notre couple, comment il grandit, etc. Et puis, prendre en considération aussi qui on est. Et ce pourquoi on est fait. Et voilà. Donc voilà, juste par l'absurde, l'infidélité en tout cas ne rend pas libre, ça nous rend esclaves de nos pulsions. Pourquoi on irait voir ailleurs ? Parce qu'on était séduit par la tendresse d'un autre, parce que dans notre couple, justement, ça s'est commencé à s'effriter. On est infidèle à cause d'égoïsme. Enfin, l'égoïsme, ça n'a jamais rendu libre et heureux, à travers des frustrations, voilà, des sentiments passagers. Enfin, on sent bien que voilà, c'est pas des choses qui peuvent construire, pas des choses qui nous font grandir. Et puis, comme je disais tout à l'heure, effectivement, le fait, si on veut vraiment que pas tomber dans ces excès, c'est ces petites attentions du quotidien. Et puis, comme je parlais tout à l'heure, de l'amour comme émotion. Alors, peut-être vous, les femmes, chacun est différent, mais on est peut-être plus sensible à ça, l'aspect sentimental, émotionnel, et d'attendre que l'autre, en fait, effectivement, me provoque en moi une émotion pour que je puisse, effectivement, agir. Il y a un piège. On sent bien qu'il y a un piège. Puisque l'amour, il n'est pas tant dans un ressenti, enfin, il peut être là, mais il n'est pas que là. Il y a un piège d'attendre l'autre de l'autre, en tout cas, quand je suis plus, moi, dans l'émotionnel ou dans le sentimental, d'attendre que de l'autre me fasse du vibrer, entre guillemets, pour que je puisse agir. D'où, on sent bien qu'un couple qui commence à s'effriter, le premier collègue qui passe, qui va me faire un peu vibrer, je vais être sensible à ça. Alors que voilà, le piège de l'amour, c'est que souvent l'amour ne nous attend pas ici, mais dans un agir avant. On sent bien que c'est un cercle vicieux d'attendre que l'autre fasse le premier pas, donc je vais attendre, l'autre pareil, on s'en sort plus quoi. Alors que l'amour est une décision, donc c'est une décision du matin, j'ai pas besoin d'attendre l'autre pour continuer à aimer, enfin pour commencer à aimer. Et puis le premier bénéficiaire de ça, c'est moi. La première personne à être heureux d'aimer, c'est moi. c'est pas l'autre. L'autre, il en goûte les conséquences. Mais déjà, moi, ça me rend heureux. Donc, voilà. Donc, c'est déjà avant tout un agir, une décision. Et ce qui est intéressant, c'est que cette décision, effectivement, va porter l'émotion. Ça, voilà. C'est des choses évidentes, hein, mais voilà. Dans la mesure où je vais agir, ça va susciter effectivement une réaction chez l'autre, et puis là, ça va se transformer en cercle vertueux. Donc on sent bien, voilà, mais il y a cet effort, c'est le premier pas qui coûte, le matin quand on se lève, de dire, Seigneur, Marie, je te choisis. D'où des rituels. Il peut y avoir des rituels qui soient mis en place, de manière très concrète. Alors ça se décide en couple, hein, mais un petit rituel, chacun trouve les moyens qu'il trouve, hein, mais une manière de se dire, je te choisis, ou ça peut être un petit temps de prière, enfin voilà, après chacun est libre de trouver, mais ça peut être intéressant de se dire comment on peut faire pour pouvoir se choisir vraiment. Puis un rituel aussi qui soit porté vraiment, enfin, c'est-à-dire que c'est pas que simplement ça, du ritualisme, voilà. Mais c'est important les rituels dans les couples, très important, qu'il y ait des moments de folie, mais qu'il y ait aussi des choses qui soient établies, ça structure, et puis il n'y a pas de questions à se poser, et puis ça nous porte, voilà. Ça c'est aussi, ça, je pense que c'est important. Parce que des fois on n'a pas envie, etc. Mais le rituel nous relance. Moi le matin, les louanges, quand on se lève, on n'a pas envie de louer. Alors, on a une demi-heure de louange, bon, à la fin on commence à peu près à louer, mais il faut une demi-heure pour se lancer, quoi. Mais c'est important, voilà, c'est un rituel, on va là, il faut donner de la voix. Mais voilà. Alors on se dit, ouais, mais le fais pas si t'as pas envie. Ah oui, mais c'est pas que ça, c'est voilà, le rituel nous porte. Et c'est important. Et dans l'amour, il faut pas avoir peur de ça, faut pas avoir peur de petits rituels dans le couple. Ça nous aide. Et voilà, c'est très bien. Alors voilà, pour terminer ce matin, et cet après-midi, en fait, voilà, je un petit peu ce qu'on va dire cet après-midi, je vais reprendre un petit peu le schéma, peut-être que vous connaissez ça, de Maslow. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, peut-être. Donc Maslow, c'est quelqu'un qui a étudié le comportement humain, plutôt en entreprise au départ, pour pouvoir grandir dans l'efficacité en entreprise. Et je me disais qu'il était intéressant de reprendre ce schéma-là dans le couple. Parce qu'en fait, on va se rendre compte que grandir en entreprise, c'est un petit peu grandir pareil dans le couple. Et puis parfois, on stagne à différents niveaux de croissance, de besoins, d'identifier aussi nos besoins, enfin, qu'est-ce qui est essentiel dans notre vie de couple. Voilà, donc ça me dit, je vais reprendre ça avec vous, avec des exemples, et puis aussi, et puis aussi des tendances. Parce qu'effectivement, les besoins, pour pas trop schématiser, les besoins de l'un ne sont pas les besoins de l'autre. Voilà. Et puis, pouvoir identifier ceux de l'autre, et puis les miens, et puis pouvoir répondre à ceux de l'autre, et puis aux miens. Voilà, en tout cas, pour ce matin, je vais terminer sur l'hymne à l'amour de saint Paul, qui dit vraiment... qui dit ce que doit être mon amour au quotidien, et on se rend bien compte que c'est vraiment une école d'amour. C'est une école de croissance, on n'a jamais fini de grandir dans la charité. La charité est longanime. La charité est serviable. Elle n'est pas envieuse. La charité ne fanfaronne pas, ne se gonfle pas, elle ne fait rien d'inconvenant, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal, elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais met sa joie dans la vérité. Elle excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen.